C'est parti.
Salut Lynn.
Salut Alessandra. Gott nytt år.
Gott nytt år, ça veut dire quoi ça?
Bonne année, hein. En suédois.
Ben, bonne année à toi aussi.
Merci. C'est vendredi 13 quand on enregistre et il y a une jolie tempête de neige dehors. Et ça me fait penser qu'en Suède, là, cet hiver, il y a eu une controverse en fait sur le caractère genré du déblaiement de la neige. Et parce que bon, en fait, il y a eu une, entre guillemets, vraie tempête de neige, parce que ce qu'on a dehors maintenant, c'est un peu du pipi de chat,
j'imagine,
comparé à ça. Et enfin, donc, c'était vraiment dans le style le pire, enfin, la pire tempête en 50 ans. Ouh. Et enfin, en fait, il déblaye et sale d'abord les routes et ensuite les trottoirs. Et en fait, les routes sont, disons, plus utilisées par les hommes, donc en voiture. Tandis qu'il y a plus de femmes, en fait, qui vont se déplacer dans la rue, notamment avec des poussettes. Et il y a eu justement des accidents avec des femmes et des poussettes. Donc, ça a été dénoncé, ce processus de d'abord...
De favoriser la voiture
ouais.
Et pas la voie piétonne.
Ouais. Comme quoi, même la neige est politique.
C'est ça, même la neige est politique, absolument.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
Dans ce 9e crépidule, on va parler de polar et de sexualité et clitoris.
Yes.
Et on commence par le polar. Donc ce sujet nous est venu parce que moi, j'ai été super grippée, enrhumée le week-end de Noël. Et du coup, j'ai campé sur mon canapé sous la couette pendant 3 jours. Et par un timing total, ma mère venait de me prêter un polar de l'écossaise Denise Mina, qui est donc une de mes autrices préférées. Et du coup, j'ai pu lire ça en attendant que la maladie passe.
Ah, quelle bonne idée.
Ouais. Et le livre en question s'appelle The Red Road. Et il fait partie d'une série de livres sur les enquêtes de la Detective Inspector Alex Morrow.
Trop bien.
À Glasgow. Ouais. Donc moi, j'adore les polars et j'en lis depuis très jeune. Après, ça fait aussi partie en fait de la culture suédoise ou scandinave. Et en Suède, par exemple, il y a énormément d'auteurs et autrices de polars. Il y a vraiment un engouement pour ce genre littéraire. Et puis, il y a aussi beaucoup de films, beaucoup de séries télé qui sortent tout le jour. Enfin, un peu enquête policière comme ça. Mais c'est drôle parce que, par exemple, moi, genre à 13-14 ans, je lisais Les Mankell. Et je trouve drôle parce que c'est un auteur qui est devenu très connu en France et, enfin bref, dans le milieu francophone depuis quelques années. Peut-être une dizaine d'années, mais moi en fait, j'associe vachement cet auteur et son style à mon adolescence et du coup à quelque chose d'assez puéril comme ça.
Ouais.
Donc c'est assez drôle quand on m'en parle.
Ouais. Ok, ouais, bon. Je peux pas te dire si j'ai la même sensation de puérilité.
Mais... Non, mais c'est aussi un peu comment, par exemple, quand tu consommes des auteurs. À un moment dans ton existence, ça finit fait. Par renvoyer à ça. Mais du coup, Denise Mina, c'est tout autre chose. Donc, je l'ai découverte il y a peut-être 10-8 ans, quelque chose comme ça, à travers une autre série de polars qu'elle a écrit qui s'appelle The Garnet Hill Series. Et c'est nommé en fait d'après un quartier à Glasgow. Et d'ailleurs, j'ai appris sur le site de Denise Mina que si vous allez à Glasgow, vous pouvez télécharger un guide de promenade sur le site du Glasgow Women's Library qui propose en fait une introduction à l'histoire de ce quartier et donc à travers en fait l'histoire de femmes qui ont vraiment vécu, notamment des artistes et des suffragettes.
Donc un quartier particulier.
Oui, donc c'est à ce que j'ai compris un peu un quartier artistique et multiculturel. À Glasgow.
Où le crime sévit aussi.
En tout cas, dans la narration de Mina. Mais ouais, dans cette série Garnet Hill, qui est vraiment une trilogie excellente, on suit Maureen O'Donnell, qui est une survivante d'agression sexuelle et qui a aussi un passé de patiente psychiatrique. Et quand des personnes en fait, de son entourage sont tuées violemment, elle va commencer à mener une enquête. Et c'est des livres qui traitent aussi de thématiques comme justement les abus sexuels, les violences faites aux femmes, Et par exemple, dans le deuxième livre, O'Donnell travaille dans un refuge pour femmes ayant subi des violences domestiques. Mmh. Et ouais, c'est aussi vraiment le récit d'une femme qui prend une posture active dans sa vie et investit la rue. Mmh. Et moi, je me rappelle que ces trois livres ont eu un fort impact sur moi parce que j'avais peut-être 19 ou 20 ans quand je les ai lus et j'étais pas dans une posture féministe, mais j'étais intéressée par ces questions et c'était très inspirant en fait de lire ces livres. Et en plus, c'est aussi une autrice qui a beaucoup d'humour, un humour souvent assez cynique en fait, qui me plaît beaucoup. Donc vraiment, je conseille.
À te proposer un modèle, en fait. Ça proposait une figuration de femme qui était inspirante.
Oui, 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 parce qu'il y a vraiment... Donc, il y a plusieurs, en fait, personnages de femmes dans ces livres. Et c'est des personnages très fortes, en fait, mm-hmm. Qui ont beaucoup de caractère et beaucoup de... Bon, beaucoup d'intelligence, mais aussi, tu vois, un truc pratique comme ça, tu vois, ouais. Elle de débrouillardise, ce mm-hmm. qui est hyper... Je trouvais hyper bien. Et en fait, cette série, Garnet Hill, c'était les débuts de Denise Mina dans les Polars. Ou en tout cas, c'est ça qui l'a rendue connue. Et après, elle a écrit cette autre série de livres, donc avec la Detective Inspector, Alex Morrow, comme personnage principal. Et dans cette série-là, on suit donc Morrow, qui est à la tête d'une équipe d'enquêteurs et d'enquêtrices à la police de Glasgow. Et elle est tiraillée entre sa carrière, les stratégies politiques qu'elle doit faire pour grimper les échelons, et puis une envie de faire ce qui est, entre guillemets, juste, dénoncer les erreurs de justice, dénoncer les mauvais flics, les politiciens corrompus. Mais par contre, là, c'est des choses qu'elle sait qui vont la freiner dans sa carrière. Donc,
Elle est tiraillée entre les deux...
C'est ça.
Ouais.
Et c'est pas vraiment décrit comme qu'est-ce qui est bien ou mauvais, mais qui, selon elle, est juste. Enfin...
Mais est-ce qu'on constate que ça freine effectivement sa carrière, cette volonté de justicière ?
Ouais, clairement. Ouais. Oui, et puis après, il y a aussi, en tant que femme, en fait, et femme flic, elle doit faire face à des remarques et des comportements sexistes, à la fois, en fait, de la part de certains de ses collègues, mais aussi de la part des criminels, en fait, qu'elle arrête.
Qui ne tolèrent pas bien d'être, d'être pris au piège par une femme.
Ouais. Et en fait, le livre que j'ai lu à Sonal, donc The Red Road, donc dans ce livre, il est question d'agression sexuelle, de violence envers les femmes, et surtout d'une jeune femme, en fait, qui va tuer pour se libérer de ses tortionnaires. Et bon, j'en dis pas plus.
Non,
mais,
parce que tu me l'as prêté, et j'aimerais bien que tu me divulgages pas la fin, hein.
Et ce livre, en fait, je trouve aussi intéressant parce que c'est aussi un portrait de rapport de classe et comment, en fait, certaines situations poussent quelque part au crime dans un désespoir et dans une envie, en fait, d'accéder à une vie meilleure. Et puis aussi comment le système judiciaire considère et punit plus ou moins durement en fonction de l'appartenance de classe d'un individu. Et après, je trouve très intéressant, là je divulgue rien, enfin, parce que toi tu as déjà lu aussi des livres d'elle, mais c'est intéressant parce que Alex Morrow, elle a donc un mari et des jumeaux en bas âge. Et d'ailleurs, dans un de ses livres qui s'appelle The End of Wasp Season, elle mène l'enquête sur un meurtre atroce et en étant méga enceinte et sans que cela pose aucun problème, autre que les remarques de certains de ses collègues.
Parce que c'est le père qui s'occupe des enfants. Hein.
C'est ça, et justement ça qui est intéressant, parce que en fait, c'est possible pour ce personnage de se soucier aussi peu de ses enfants, parce que son mari est, entre guillemets, homme au foyer.
Mais d'ailleurs, celui que je suis en train de lire, Sanctum, c'est exactement ce cas de figure. Le couple pareillement formé en médecine, psychiatrie, et lui qui renonce à sa carrière très facilement, alors sans aucun regret, pour s'occuper de la vie domestique.
Okay.
Et l'épouse qui s'investit complètement là-dedans.
Ouais. Puis ce livre-là, en fait, c'est même pas une série, c'est plus un livre indépendant écrit par Mina aussi.
Oui.
Ouais. Mais ouais, en tout cas, je trouve intéressant dans cette série avec Alex Morrow que... Enfin, sa famille et sa vie amoureuse est en fait clairement mise au deuxième plan. Ils sont vraiment cantonnés à la périphérie du récit. Mm. Et au cœur du récit, c'est vraiment c'est l'enquête, la carrière et la vie de Morrow. Mais du coup, vu que j'allais parler de ce livre, et enfin de cette autrice, j'ai fait un peu des recherches, et toi aussi, sur, plus généralement sur les polars écrits par des femmes. Et donc, en fait, les femmes ont toujours écrit des polars, depuis l'émergence de ce genre au milieu du 19e siècle. Et dans une série d'émissions de France Culture de mars dernier, Hélène Almaric, qui est donc une spécialiste du polar, raconte qu'il y avait déjà, en fait, à la fin du 19e siècle, début 20e, des autrices de polar qui ont été, enfin, qui ont connu beaucoup de succès, mais dont les noms ont par la suite été effacés ou occultés par l'histoire de ce genre ou de la littérature.
Absolument, ouais. Il y a une autrice qui est américaine, Anna Catherine Green, qui est considérée comme la mère du roman policier et qui a publié son premier roman en 1878.
Ah ouais.
Le crime de la 5e avenue, et il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires.
Ah, c'est fou ça.
Mais avec beaucoup de scandales. Il y avait un traitement, ce qu'on peut déjà dire médiatique à l'époque, qui a une énergie de choc, quoi. C'est quand même un peu scandalisé qu'une femme fasse des choses comme ça.
Mais est-ce que ça a été vendu à un million d'exemplaires jusqu'à aujourd'hui, ou bien...
Je ne sais pas.
Ok.
Mais en tout cas, cet article qu'il évoquait utilisait ce terme d'un million pour dire que ça avait vraiment eu, dès le départ, beaucoup de succès.
Ouais.
Mais par contre, c'était quand même assez convenant, hein, si on prend Agatha Christie. Alors, de nouveau, je n'ai pas une connaissance assez grande pour pouvoir savoir ce qui se passait sous des plumes masculines à la même époque. Mais c'est vrai que, voilà, Agatha Christie et d'autres, c'est quand même, ça reste quand même bien gentillet et justement convenant. Mais chaque fois qu'on aborde un peu ces sujets de place des hommes et des femmes, il y a toujours un peu, je trouve, ce piège de vouloir présenter une plume qui serait spécifiquement féminine ou spécifiquement masculine. Et je pense déjà par rapport à ce que tu as présenté avant, ce qu'on remarque, c'est des postures ou des positions sociales plutôt qui sont différentes entre les hommes et les femmes, qui fait aussi un autre regard porté sur l'histoire. Alors, dans les thèmes, par exemple, tu as évoqué la notion de violence conjugale, mais avec un personnage qui va s'en sortir, etc. C'est peut-être pas une thématique qui est infiniment abordée de ce point de vue-là dans une littérature plus masculine. Est-ce que la question aussi d'un genre qui a mis peut-être un moment aussi à gagner ses galons. Alors toi, tu dis qu'en Suède, c'est un genre qui est bien reconnu et valorisé. Je suis pas sûre que dans le monde francophone, ça soit fait aussi vite. Donc c'était un peu déjà, voilà, une littérature un peu en marge. Est-ce que c'est aussi de cette position-là, de ce genre, qu'on a laissé plus de place aux femmes parce que c'était moins, tu vois, que c'était moins valorisant d'écrire du roman noir?
Ouais, ça je ne sais pas. Mais...
Oui, c'est des questions.
Ouais.
Mais en tout cas, il y a visiblement beaucoup d'autrices actuellement et aussi dans la francophonie. Moi, j'avais un peu découvert La plume de Fred Vargas. Je sais pas si tu as lu.
Je crois que j'ai lu, mais il y a vraiment longtemps. Du coup, je me rappelle pas très bien.
Ouais, bon, là, j'ai plus les titres. Mais c'est une autrice qui était intéressante aussi parce qu'elle est archéologue de formation. Et puis elle adore Paris et déambuler de manière nocturne dans la ville. Donc tout ça est très présent dans ses livres. Voilà, cette connaissance des bâtiments, de l'histoire. Donc c'est aussi nourrissant parce que t'as plein de données comme ça qui sont amenées. Et d'ailleurs, on peut se demander, parce que Fred Vargas, c'est un nom qu'elle a pris.
Ouais.
Est-ce que c'est pas aussi une manière de prendre un nom androgyne pour correspondre plus.
Ouais, c'est clair. Là, par exemple, il y a en Allemagne une autrice qui a beaucoup de succès. Moi, j'ai lu un livre d'elle, j'ai trouvé super nul, mais qui écrit sous le pseudonyme Alex Berg. Je veux dire,
Ah ouais, dis donc. Il n'y a pas plus androgyne que ça.
Non, et puis c'est quelqu'un qui publie, je crois, elle publie vraiment un roman par année. C'est une machine, quoi. Puis qui a une écriture qu'on pourrait qualifier de masculine quelque part.
C'est dur, hein.
C'est pas, j'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais comment dire.
Mais quand on veut dire masculine, ça veut dire qui investit des attitudes ou des qui sont socialement attribuées aux hommes. Je crois que c'est toujours avec cette nuance qu'il faut évoquer cette notion de masculinité et féminité. C'est ce qui est socialement reconnu comme appartenant à l'un ou l'autre.
Ouais. Ouais. Mais voilà, comme tu disais avant, et pour continuer un peu sur ce terme de... parce que moi, en fait, je ne pense pas qu'il y a une écriture féminine, mais ce que je trouve intéressant de lire, en fait, des polars écrits par des femmes, c'est parce que le polar, voilà, c'est aussi un genre littéraire qui est souvent le reflet de la société, parce qu'il parle de la rue, il parle de l'individu, de chez les gens, en fait, aussi, dans l'intime. Et du coup, c'est... ce reflet de la société, ben il est peint en fait depuis un standpoint de femme ou d'écrivaine femme, tu vois. Et Almaric, en fait, donc cette spécialiste qui parlait sur France Culture, elle raconte aussi qu'il y a en fait eu un changement dans les personnages des polars écrits par des femmes dans les années 80. Ou qui en fait qui accompagne un changement de la place des femmes dans la société occidentale, et on voit apparaître des personnages de femmes actives, des femmes flics, des femmes détectives qui vont vraiment investir la rue, investir la politique. Et voilà, là c'est aussi, je veux dire, c'est un vécu social, c'est des expériences de femmes qui vont en fait se déverser dans les polars.
Oui. Et puis il y a une auteure, autrice qui s'appelle Elsa Marpeau, qui justement évoque son ras-le-bol des schémas, comme elle dit, vieux comme le monde, hein, de la victime féminine et de l'enquêteur masculin. Et on voit justement dans ces exemples aussi que tu as évoqués, où c'est ça qui est retourné. Et puis voilà, cette autrice, elle voulait montrer que ça fonctionne tout aussi bien quand on l'inverse. Enfin, voilà. Mais d'ailleurs, il y a un article qui est dans le Post-Pod, de l'Express, du journal français L'Express, qui date de 1997, donc pour dire pas récent, et puis qui porte déjà le titre « Les filles à l'assaut du polar ».
Les filles.
Ouais, c'est ça, les filles. Oui, puis d'ailleurs, il y a tout un lexique, les divas du polar, les reines du polar, qui est aussi un peu désagréable à lire et à entendre. Ouais. Et par exemple, il y a une éditrice, Viviane Ami, qui justement publie Fred Vargas et puis Maud Tabachnik, et qui dit qu'elle, quand elle a créé sa collection qui s'appelle Chemin Nocturne, elle ne voulait pas faire une ligne d'autrice spécialement. Elle ne voulait pas faire une collection féminine, mais elle constatait qu'il y avait déjà une telle majorité de femmes et que ce qu'elle jugeait comme étant les meilleurs manuscrits étaient écrits par des femmes.
Ouais. Ouais.
Donc s'il y a plusieurs types d'écriture, plusieurs personnalités d'autrices et d'auteurs, il y a aussi plusieurs genres, des sous-catégories du polar.
Ouais.
C'est pas non plus quelque chose à dire le polar, une fois de plus, le singulier correspond pas à la réalité.
Ouais. Mais on vous mettra, ce sont les références sur le post-pod. Et notamment, vraiment, moi je conseille cette émission-là avec Almaric qui est assez exhaustive.
Exhaustive.
Lundi dernier, il y a ton article « Clitoscopie contemporaine » qui est paru dans le journal genevois Le Courrier. Et du coup, l'occasion d'en parler avec toi.
Ouais, c'était une super expérience déjà de... Parce qu'en fait, 1, 2, 3, je rembobine. Donc, master études genre, j'ai choisi de travailler sur la méconnaissance, le fait de méconnaître et de faire connaître la structure complète du clitoris, qui se résume donc pas à un petit bouton extérieur, mais qui a toute une arche interne. Je vous mettrai peut-être
une image,
ce sera plus parlant. Et voilà, donc c'est un organe qui est encore relativement peu ou pas connu. Donc je me suis un peu emparée de ce sujet pour faire mon mémoire. Et là, j'ai eu l'occasion donc de présenter un peu les résultats auxquels j'étais arrivée, et puis des réflexions qui sont venues depuis lors, parce que ça c'était en juin, et j'ai continué à réfléchir là-dessus.
Oui.
Et d'ailleurs, je pense que les questions sexuelles vont pas mal occuper ce podcast cette année, aussi parce que je continue à faire de la recherche sur cette question-là, la question plus particulièrement des représentations visuelles du plaisir féminin. Donc je vais, voilà, profiter de d'échanger avec toi sur ce que j'apprendrai.
Je me réjouis de l'année à venir.
C'est le cas de le dire. Puis déjà, peut-être j'y reviendrai plus en détail, mais discuter du fait que le sexe, quand on dit sexe, c'est en tant que pratique, orientation, désir sexuel, c'est pas un sujet satellite à notre organisation sociale. Il faut bien prendre conscience que c'est aussi un terrain qui est façonné par des rapports de pouvoir, les mêmes qui traversent toute la société, et c'est un domaine qui est soumis à toutes sortes d'injonctions et d'interdits. Donc c'est un lieu également de grande souffrance, on n'a qu'à regarder cette sorte d'acharnement qui est très très lointain, très historique, contre les pratiques qui se situent hors de l'hétérosexualité ou hors de la conjugalité. Bon, le sexe, c'est aussi un lieu d'émancipation, hein, d'exploration transgressive, ça aussi on y reviendra. Mais en tout cas, c'est pas du tout une dimension qui est naturelle, spontanée, innée, mais qui est bien sociale et qui est prescrite différemment suivant les époques et suivant les valeurs qui lui sont contemporaines. Et quand on prend le plaisir, la notion de plaisir, là c'est vraiment, il y a eu un cadre des plus rigides, avec par exemple, mais on pourrait remonter plus loin, mais dès le 18e, et ce qu'on qualifiait de nymphomanie, qui était considérée comme un grand danger pour la société. Puis juste se souvenir qu'à cette époque, les femmes, elles étaient considérées comme nettement plus libidineuses que les hommes. Mmh. Hein, ce même élément qui va participer à les évincer de toute activité rationnelle, donc de la politique et plus largement de l'espace public, parce qu'on estimait qu'elles ne pouvaient pas maîtriser leurs pulsions.
Ouais.
Et au 19e, c'est vraiment un siècle très important, parce qu'il va y avoir une sorte d'acharnement médical sur ce qui va être qualifié de déviance sexuelle, d'hystérie, avec notamment une définition de la masturbation comme étant très malfaisante, non seulement d'un point de vue moral, mais d'un point de vue de la santé. Et en Suisse, on a ce cher docteur Tissot, qui était très célèbre, et qui n'aura de cesse de combattre la masturbation avec presque une sorte d'obsession suspecte.
La masturbation des femmes, ou bien...
Non, filles-garçons.
Ok.
Filles-garçons, avec vraiment... une visée sur les enfants, enfin que ça devait, okay. Ça devait vraiment être interdit depuis le plus jeune âge. Et puis, bah, comme aussi le docteur Kellogg,
qui a fait des céréales après.
Ouais. Et bah, lui, il invoquait tout à fait clairement l'application de phénol pur, donc c'est un dérivé du pétrole, sur le clitoris pour combattre la masturbation. Donc, à toi de voir, hein, si tu bouffes ça le matin, je te laisse toi et ta conscience, mais bon, chez moi, il n'y a pas de Kellogg. Donc voilà, il y avait toutes sortes de mesures anti-masturbatoires, donc ça pouvait aller de l'emmaillotement du corps ou des mains, en étant le truc le plus simple, à la circoncision, à la brûlure des petites lèvres, du clitoris par des fers chauds, sans anesthésie évidemment, ou par aussi les premiers usages dits thérapeutiques, dits rayons X. Et puis se dire aussi que ces pratiques, elles étaient également utilisées sur des jeunes filles qui désobéissaient.
Mmh.
Aux normes qui étaient en vigueur à ces époques, ou sur des femmes, par exemple, qui voulaient divorcer. On trouve des traces de ces pratiques en Angleterre, en France, en Autriche. Et puis j'ai vu passer sur Twitter, il y a quelque temps, le témoignage d'une femme blanche, chrétienne, pour dire comme on a toujours tendance à situer ces pratiques dans un ailleurs exotisé, qui a témoigné que pour cette même motivation anti-masturbatoire, elle a subi... dans une church clinique, je ne sais pas ce que ça implique, une église, une clinique religieuse, mais je ne sais pas exactement les liens, avec l'église aux États-Unis, une ablation du clitoris en 1947. Bon, et puis le 19e, pour en revenir à cette époque, c'est aussi la fin absolue de la croyance d'un lien entre plaisir et procréation, comme on a pu le penser un temps, que le plaisir sexuel participait à une meilleure procréation, ouais. Ou à la procréation tout court. Puis avec dorénavant une centralité qui est attribuée au sperme dans le processus reproductif. D'ailleurs, une représentation qui sera elle aussi relativisée quand on s'est rendu compte du rôle de l'ovule dans le processus de reproduction qui en fait n'a rien de passif. Quoi.
Ouais.
Bon, mais tout ça, ça ne va pas arranger le bidon des femmes et puis encore moins la diffusion de connaissances sur le clitoris. Et on reviendra aussi sur ce 19e siècle, parce que par exemple, il y a un docteur Sims aux États-Unis qui est un peu pas forcément inventé, mais presque, par exemple le spéculum, et puis qui testait ses méthodes chirurgicales gynécologiques sur des femmes esclaves, sans anesthésie, avant de les appliquer aux femmes blanches, là, dans tout confort, mmh. sous anesthésie. Bon, tout ça pour dire que les finalités de la construction de savoir, ça peut être multiple, hein, ça ouais. peut viser différentes motivations. Mais bon, si on prend l'exemple de l'histoire de la connaissance ou de la méconnaissance du clitoris, bon, moi, je l'ai surtout analysé d'un point de vue anatomique. Mmh. Même si, en fait, les savoirs sur son fonctionnement depuis le début du XXe sont considérablement et enfin, on pourrait dire, investis. Parce qu'il faut rappeler quand même que la première sonographie d'un clitoris en action, c'est bon, c'est en 2008. Hein. Mais donc si on...
Attends, ouais. Sonographie.
Sonographie.
Sonographie, ça veut dire...
Ça veut dire, c'est comme une échographie, tu vois.
D'accord.
Et qui permet de regarder comment le clitoris réagissait quand... je crois que la première fois, c'était des patientes, enfin des femmes qui se mettaient un doigt dans D'accord. le vagin, se masturbaient, puis pour voir comment le clitoris réagissait à okay. la stimulation sexuelle. Mais je pourrais mettre en lien une vidéo où tu vois justement...
Ok. Ouais, à fond.
Ouais.
Ok.
Donc ça, c'est encore tout un autre champ à explorer mmh. avec la controverse sur le point G et tout ça. Ça, mmh. c'est encore tout un autre chapitre. Mais si on en revient à cette définition anatomique du plaisir qu'il a situé pour les femmes dans le clitoris, l'histoire de ces savoirs est tellement en dents de scie qu'elle révèle le fait qu'elle est sous influence de variations et de représentations des époques qu'elles ont traversées. Et c'est pas seulement une influence sur la production des savoirs, mais c'est aussi sur leur diffusion. Parce que par exemple, il y a cet anatomiste allemand qui a effectué une description relativement claire et précise de l'ensemble clitoridien au XIXe siècle. Puis en fait, ces connaissances, elles vont quasiment pas être diffusées au XXe.
Ouais.
Et on peut même s'interroger sur la capacité de notre XXIe siècle à visibiliser ces savoirs. Parce que là, il y a deux exemples suisses. Il y a notamment le livre de biologie qui est distribué encore maintenant, qui est publié en 2006, qui montre qu'une planche de profil des appareils génitaux masculins-féminins. Et puis sans entrer trop dans les détails, mais c'est un plan qui permet de montrer bien tout l'ensemble, les testicules, le pénis masculin, mais qui n'est pas favorable à montrer l'ensemble de la structure clitoridienne. Bon, on pourrait tricher encore un peu parce qu'on voit que sur ces plans, les ovaires, par exemple, elles sont en 3D, alors que tout le reste est en 2D. Ouais. Donc tu dis, ah bon, mais on peut quand même un peu jouer de ça, tu vois. Ou alors on pourrait aussi, comme c'est dans le cas dans d'autres manuels d'anatomie, on pourrait mettre une autre coupe qui serait de face cette fois, et puis là on pourrait voir l'ensemble.
Ouais, mais moi je trouve ça, c'est donc tu en parles dans ton article, et je trouve ça c'est vraiment dingue en fait de voir comment cette méconnaissance elle est encore reproduite. Et là, je veux dire, l'exemple que tu donnes, donc c'est des élèves, enfin le livre il est distribué aux élèves du secondaire en Suisse, et c'est vraiment en fait ça se situe dans l'éducation. Et c'est une représentation qui met la focale sur cette reproduction. Donc, tu parles de l'emboîtement pénis-vagin. Mm-hmm. Et ça inscrit vraiment les organes génitaux et la sexualité dans un discours comme ça de l'hétérosexualité.
À fond, reproductive.
Et puis, c'est aussi... Voilà, c'est ça. C'est une sexualité qui est que à but reproductive. cette idée de complémentarité. Et je trouve ça, tu montres aussi les enjeux de qu'est-ce qu'on prend comme modèle en fait de représentation. Donc là, c'est comme tu dis, une des représentations qui sont favorables à montrer les organes génitaux masculins. Mais en fait, on pourrait très bien imaginer, comme tu dis, d'autres manières de faire sans que ça doive s'appliquer, disons, aux entre guillemets deux.
Oui, c'est ça. C'est ça que tu dis. Ce serait pas grave d'avoir une planche de plus. C'est ça que tu dis.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Mais aussi d'avoir une planche de plus, ou bien de. On pourrait aussi jouer avec l'idée de mettre une planche qui serait plus favorable aux organes génitaux féminins, et de voir qu'est-ce que ça. Comment, si on utilise ça comme repère, qu'est-ce que ça montre en fait sur les organes génitaux masculins.
Oui, et puis je te dis vraiment le fait de, que, qui est, qu'on disait, mais on ne peut pas montrer autrement avec une coupe de profil parce que tout est en 2D, donc les coupes comme ça, transversales, elles vont être sur une seule profondeur en fait. C'est comme si tu prenais une feuille de papier, puis tu te la passais, tu vois, à travers le bras ou Dieu sait quoi, puis ça montrerait que ce qu'il y a à cette profondeur-là et pas ce qu'il y a au-delà ou en deçà. Mais cela étant, je te dis, les ovaires, elles sont, elles, rondes en 3D. Donc ça, c'est triché, ça ne correspond pas à la pratique de... Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
De cette représentation. Donc, on peut faire des choix. Et là, j'ai une amie qui vient de m'envoyer hier des photos. Alors justement, je lui ai demandé de me répondre, mais elle n'a pas eu le temps de le faire. C'est dans le cadre de... Je crois que c'est du planning familial... d'un planning familial, et je crois que c'est dans le canton de Vaud. Donc tout ça est très entre guillemets. Mais en tout cas, elle me montre des photos d'une sorte de... Cette fois, c'est vraiment complètement en 3D. C'est une sorte de tronc,
ouais.
D'accord, à la hauteur des appareils génitaux féminins. Et puis c'est donc un peu sculpté, comme ça. Il y a un tout petit clitoris, mais bon, il y en a un. Mais il est même pas en relief, tu vois. C'est une sorte de petit rond. Et en fait, le dispositif, tu peux l'ouvrir pour regarder comment c'est fait à l'intérieur. Rien. Rien.
C'est
clitoris. Ouais.
Du coup, c'est vraiment... C'est de nouveau aussi quelque chose qui est complètement axé sur la reproduction.
Oui, puis qui est faux. Ouais. Enfin, c'est, tu vois, au bout d'un moment, on vient même pas à dire ce serait sympa si vous... Mais non, c'est juste, c'est faux.
Ouais.
Et complètement actuel. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de... Enfin, le traitement social de la sexualité, il est rempli de paradoxes, quoi. Parce que d'un côté, on assiste à une sorte d'injonction médiatique à la jouissance. Tu vois, il y a tellement d'articles sur les positions qu'il faut prendre, les fréquences. Il y a cette histoire de diagnostic de syndrome qui a été établi du manque de libido. Puis, ah, bah, comme par magie, on a un petit traitement pour y remédier. Comme si c'était une question... très importante, tu vois, le manque de libido féminine.
Oui, puis il y a aussi l'OMS, par exemple, qui a cette définition
de
la santé, qui en fait, dans leur définition de la santé, il y a l'idée d'une vie sexuelle épanouie.
Et active,
et
donc.
Active,
hein.
Ouais.
Ben, nouveau, c'est très bien, youpi, sexe positif, ça, c'est pas la question, mais ça fonctionne un peu comme une injonction, ça repose un peu une norme du style un peu je suis. Donc je jouis, ou je jouis, donc je suis. Quoi, tu vois. Et paradoxalement, bah, comme tu dis, dans le domaine de l'éducation, il y a cette absence complète d'outils pour se connaître, comme par exemple donc, les représentations de l'ensemble du clitoris. Alors, cela étant, ben, le fait de faire connaître le clitoris, ou l'ensemble de sa structure, c'est encore aujourd'hui une affaire militante. Puisqu'on peut constater que ce n'est pas lié à l'état des connaissances, mais bien, donc, comme on a dit, à leur diffusion. Donc, c'est-à-dire que derrière ça, il y a des choix ou des valeurs ou des représentations. Alors, le fait de brandir cette méconnaissance ou de faire connaître le clitoris, ça reste aujourd'hui utilisé comme un symbole de l'inégalité de diffusion de savoir entre les femmes et les hommes. Et on voit que sur le net, c'est vraiment très, très présent. Il y a toutes sortes de propositions sur le clitoris, clips vidéo, enfin, plein de choses. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces mobilisations ne se font pas dans la même démarche. C'est-à-dire que bah, nous, on s'y reconnaît bien parce qu'on sait qu'il y a 1000 positions féministes ou militantes. Et là aussi, ça se retrouve parce que certaines personnes vont dire « Ah, ben, revendiquer une sorte de spécificité féminine.
Ouais. »
Hein, les femmes, elles ont un organe qui sert, pour ce qu'on en sait actuellement, qu'au plaisir, contrairement... aux hommes, même des fois de supériorité, en disant que cet organe est particulièrement innervé par rapport aux autres organes humains. Puis ça, c'est pas étayé scientifiquement comme argument. Mais ce que je trouve, moi, très intéressant dans le fait de s'intéresser au clitoris, c'est au niveau de son fonctionnement, ben, le fait que ses tissus, particulièrement les tissus internes, ils se gorgent de sang pendant l'excitation sexuelle. Puis ça permet... d'une part, de un peu désinguer cette association donc, que tu as évoquée avant entre pénis et vagin, parce qu'en fait, anatomiquement et physiologiquement, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est le fait social de vouloir transmettre une image qui serait comme faite l'un pour l'autre, tu vois. Puis justement, donc ça représente une configuration sexuelle qui poserait les rapports hétéro et reproductifs comme la norme. Mais non. La ressemblance, l'homologie, d'ailleurs dès l'embryon humain, c'est bien entre le pénis et le clitoris. Comme le montre notamment cette capacité d'engorgement qui est commune aux deux. Donc, avec cette notion, en fait, il n'y a plus d'intérêt à penser et à organiser les corps de façon binaire, avec les femmes d'un côté qui auraient telle chose, les hommes de l'autre, et par ailleurs aussi les corps intersexués dont on dit « ils ne ressemblent pas assez au pôle féminin ou pas assez au pôle masculin ». On peut oublier les critères de forme, de taille, et se dire que chaque être humain possède, s'il le souhaite, cette même capacité d'engorgement. C'est pas révolutionnaire, ça ?
Si, justement, j'ai beaucoup aimé cette notion d'engorgement dont tu parles dans l'article, et tu en parles aussi parce que tu as en fait, et ça c'est super cool, des échanges épistolaires avec Odile Fio. Mm-hmm, mm-hmm. Je sais pas si tu veux dire trois mots juste sur qui est Odile Fio.
C'est une chercheuse indépendante française qui est vraiment, elle est d'une précision, d'une rigueur, d'une exigence par rapport à sa démarche qui est incroyable. Mm. Mais à tel point qu'elle est tellement précise, tu te sens toujours un peu stupide dans tes questions. Et comme elle répond, tu as envie de repréciser en disant « Non mais en fait, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un enjeu un peu comme ça. » Et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu, mais il y a un Cosette qui est le journal, un des journaux féministes français qui a fait un hors-série sur le clitoris. Okay. Et elle a participé à l'élaboration d'une planche anatomique.
Ouais.
Donc voilà, elle a vraiment des... Elle est très précise par rapport aux termes utilisés, tout ça.
Mmh. Et je trouve vraiment intéressant parce que dans la dernière partie de ton article, tu cites justement Odile Fio quand elle décrit en fait les organes génitaux et justement pour sortir de cette binarité, elle parle que chaque être humain, chaque individu a un ensemble de tissus génitaux, érectiles, qui peuvent s'engorger. Et elle les décrit comme en partie caverneux.
Oui.
Et en partie spongieux. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que moi, ça me fait penser à la fois à un paysage un peu sous-marin, coloré comme ça, et à la fois une sorte d'imagerie qui serait de l'ordre de l'espace, tu vois, un peu presque science-fiction. Et je pense que, tu vois, elle donne quelque chose dans cette phrase pour penser les organes génitaux, tu vois, d'une autre manière.
Eh bien, je suis pas sûre qu'elle ait pris... qu'elle a réalisé cette dimension poétique. C'est vraiment les termes scientifiques, voilà, corps spongieux, corps caverneux. Mais je trouve super ton invitation au voyage avec ces termes. Oui, puis juste dire aussi qu'en fait, elle a modélisé donc, un clitoris en 3D dont le logiciel est en accès libre sur le net. Donc, quiconque a une imprimante 3D peut l'imprimer chez elle ou chez lui, avec aussi une intention pédagogique derrière.
Ouais.
Mais bon, tu vois, cette capacité d'engorgement, ça fait... Moi, j'ai retrouvé des textes des années 70 où il y avait déjà des féministes qui mettaient ça en avant. Puis, tu vois, années 70, on n'y est toujours pas. Mm-hmm. Donc, vive les podcasts.
C'est clair. Bah, vive les podcasts à venir aussi avec tout ce que tu auras à nous apprendre.
Ouais, parce que je serais en train de le découvrir moi-même.
Voilà, c'est ça. Bah, tout ce que tu auras partagé. Là.
Voilà.
Ouais, mais je trouve que ton article, il a vraiment une force comme ça, éducative ou de partage que j'ai beaucoup aimé. Mmh. Et il montre aussi en fait comment cette limitation d'accès au savoir pour les femmes vont vraiment jusqu'à s'inscrire en fait dans leur propre corps, tu vois. C'est même ce corps qu'elles habitent, tu vois, que j'habite, il reste obscur sur plusieurs plans. Et voilà comment en fait le système de genre ou une organisation patriarcale de la société contribue toujours à invisibiliser cet organe. Et comme tu dis, même alors qu'on fait des avancées, ça semble toujours être freiné. Mm-hmm. Mais alors je sais pas si par exemple tu voulais raconter un peu comment les féministes ont développé des outils pour remédier à ça, enfin dans les années 70. Bon, aujourd'hui, voilà, il y a, par exemple, on a parlé de ça, de Odile Fio, qui va du coup utiliser aussi les technologies comme les imprimantes 3D, les logiciels et tout ça pour proposer des... Enfin, de visibiliser cet organe, mais...
Donc, effectivement, un des outils utilisés par les féministes, c'était le self-help, une manière de se réapproprier leur corps et puis non seulement de se réapproprier leur corps, mais de produire aussi des nouveaux savoirs. Parce que c'était ça le constat, c'était de dire, effectivement, elles ont regardé ce qui se passait au niveau historique, qu'il y avait certaines, on peut toujours rester autour du clitoris, qu'il y avait ces connaissances qui étaient présentes au 19 et pas dans les manuels du 20e.
Mais du coup, le self-help, c'est dans les années 70, c'est ça?
Ah, je n'ai pas précisé, pardon. C'est dans les années 70 que ça s'est mis en place, ouais. Et elles se sont dit, ben, alors on va comparer ce qui est dit avec ce qu'on ressent et ce qu'on voit. Et puis déjà, on va commencer à aller voir, parce qu'en fait, on n'en sait rien. Mmh. C'est parti un peu de ça, de ces examens gynécologiques, où en général, à cette époque, c'était plutôt des hommes gynécologiques qui, eux, pouvaient voir la vulve, le col de l'utérus. Mais en fait, toi-même, tu n'y as pas accès à cette vision-là si tu ne vas pas la chercher.
Ouais. Mais ça, je trouve hyper intéressant parce que c'est aussi un moyen, en fait, elles ont vraiment pris une sorte de place active comme ça pour extraire le corps féminin de cette sorte de médicalisation hyper forte et puis de dire non mais attends là je reprends quelque part possession de mon corps et du savoir qui va être produit sur mon corps.
C'est ça, c'est que c'était une manière de démonter tous les rapports de pouvoir. Il y a eu aussi beaucoup de contestations justement dans le milieu médical plus largement des patientes et des patients qui voulaient reprendre un peu une posture de sujet dans la médecine, tu vois, de pas subir tout le temps les choses sans rien y comprendre, sans qu'on t'explique rien. Donc voilà, c'était dans l'air de ce temps-là. Et effectivement, là, dans mon article, je fais allusion à un ouvrage qui s'appelle New View of a Woman Body, une nouvelle vue sur le corps. Ben, elles disent un corps de la femme, aujourd'hui on dirait des femmes, mais par ça, elles ont cette pensée intersectionnelle parce qu'elles représentent quand même des couleurs de peau différentes et c'était déjà quand même un peu acquis pour elles, parce qu'il est publié en 81. Et elles vont produire ouais, des nouveaux savoirs sur l'ensemble clitoridien qui vont être confirmés par la suite, par les outils ultra-technologiques de l'IRM. Donc voilà, pour montrer aussi qu'il y a plein de manières de produire du savoir.
Mm-hmm. Ouais. Ben, on va continuer à en produire ici aussi.
Yep.
À participer en tout cas. Et aussi, je voulais te féliciter pour ton collage qui était publié aussi en même temps que l'article, enfin qui accompagnait l'article. Il est super beau.
Ah, merci.
J'aime trop.
En tout cas, c'est un plaisir de, tu vois, et puis voilà, c'est les questions visuelles qui m'intéressent, mais c'est tellement excitant de dire, ah ben, je vais faire l'illustration aussi. Et en fait, je vais, voilà, il y a deux manières de parler des choses. Mm-hmm. Et ça, vraiment, j'ai eu un plaisir fou.
Ouais.
Tant mieux s'il a été reçu.
Bon, je crois que c'est...
Oui.
C'est tout pour aujourd'hui.
Et on va partir sur des nouvelles aventures, là.
Oui. Déjà, ce soir, on va aller voir un film.
Ouvrir
la voie d'Amandine Gay au Spoutnik, on se réjouit.
Avec elle qui sera présente.
Ouais.
Et sinon, on va collaborer avec le festival de cinéma Black Movie à Genève, qui vont produire une web radio éphémère à laquelle Crépidule va participer.
Yay!
Youpi! Ouais, on se réjouit.
On tiendra au jus sur Twitter, Facebook et compagnie. Et aussi, grande nouvelle de
Bravo Lynn, tu as œuvré son et haut pour ça.
Vous pouvez retrouver Crépidule sur iTunes, donc c'est encore un accès. Et aussi sur SoundCloud, mais je pense que iTunes, voilà, ça va faciliter l'écoute pour pas mal de gens.
Super.
À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines.
Tchuss.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos pour aller plus loin sur les thématiques abordées. Vous pouvez aussi écouter Crépidule depuis iTunes.